Louer et remercier soit le Seigneur pour tous ces cantiques précieux que nous puissions l'adorer ce soir encore et aussi écouter ensemble sa parole. Nous savons que ce monde n'est pas notre patrie, mais que nous cherchons celui à venir. Nous cherchons ce que Dieu a promis et nous l'attendons comme Abraham l'a fait, nous aussi nous attendons. Et nous savons que les jours passent si vite et que bientôt nous serons là-bas auprès de lui. Ça, c'est notre foi et notre assurance et notre confiance dans le Dieu vivant. Ici, dans le prophète Ézéchiel, il est écrit au chapitre 16, du verset 59. Ézéchiel 16, verset 59, ici c'est Dieu qui parle à son peuple. Car ainsi parle Dieu le Seigneur. Oui, je te traiterai comme tu l'as fait. Tu as violé le serment en rompant l'alliance. Verset 60, mais je me souviendrai de mon alliance que j'ai conclue avec toi au jour de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Oui, c'est quelque chose de merveilleux. Nous l'avons chanté et nous pouvons le lire. Ce que Dieu promet, il le tient certainement. Lorsqu'il conclut une alliance, il veut aussi la respecter. En tant qu'être humain, nous pouvons échouer. Et peut-être le peuple d'Israël a-t-il échoué. Mais c'est lui qui n'échoue pas. Au verset 60, « Mais je me souviendrai de mon alliance que j'ai conclue avec toi au jour de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. » Et cela, nous le croyons de tout notre cœur, ce que Dieu a commencé, il exécute. Et l'alliance qu'il a conclue, il la garde. Peut-être, comme je l'ai déjà dit, est-ce impossible, ce qui est impossible pour les hommes, est possible à Dieu. Pour Dieu, toutes choses sont possibles. Ici, dans le psaume 105, ce psalmiste dit déjà, dans le psaume 105, peut-être, du verset 8. Il dit, psaume 105, verset 8, « Et il se souvient de son alliance éternellement, de la parole qu'il a ordonnée pour 1000 générations. » Verset 9, « Qu'il a conclu avec Abraham, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et du serment qu'il a fait à Isaac, verset 10, qu'il a confirmé pour Jacob comme statut et pour Israël comme une alliance, comme alliance éternelle. Verset 11, lorsqu'il dit, je te donnerai Cana, le pays que je vous ai assigné en héritage. Ce sont là de glorieuses paroles de Dieu. Et nous savons que ce psalmiste aussi le dit ici. Il savait que ce que Dieu promet, il le fait. Il dit qu'il se souvient de son alliance pour toujours, éternellement. Nous voyons que des milliers d'années se sont peut-être écoulées et il se souvient quand même de l'alliance, des paroles qu'il a prononcées. Et nous voyons de nos jours comment ces paroles s'accomplissent. Quand nous regardons le peuple d'Israël et que nous voyons ce que Dieu a promis et qu'il les ramène sur leur terre, nous voyons que cela doit arriver. Malgré toute la résistance des ennemis, cela doit se faire parce que le Dieu Tout-Puissant l'a dit. Frères et sœurs, il en va de même pour nous. Personne ne peut changer ce fait. Ce que Dieu a promis à son Église épouse, ce qu'il a prévu pour elle, il le lui fera parvenir. Et personne ne peut et ne pourra l'empêcher. Même si des ennemis se lèvent et s'opposent, mais ce que Dieu a promis, il le donnera. Ce que Dieu a promis, chante un auteur de chanson, cela demeure. Et même si le ciel et la terre passent, Dieu tient sa parole. Dieu l'exécute, peut-être même parfois différemment de ce que nous pressentons, de ce que nous voudrions peut-être voir, mais il vient à son droit. Il respectera son alliance, il gardera sa fidélité. Il est également important que nous lui restions fidèles, que nous accrochions aux paroles qu'il a prononcées, à l'alliance, que nous ne la rompions pas, mais que nous sachions que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais le Dieu Tout-Puissant, même de nos jours. Et pour cela, je pense que nous sommes très reconnaissants et très heureux et que nos cœurs sont accordés, même si parfois nous n'avons peut-être pas envie de nous réjouir. Mais d'un autre côté, lorsque nous voyons ce que Dieu a dit, nous pouvons nous réjouir intérieurement et apporter l'honneur, l'adoration et la louange à Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes à nouveau réunis ici ce soir. Je crois qu'il nous bénira de la richesse de sa grâce. Levons-nous maintenant pour une prière commune. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur pour ce jour, pour cette heure, pour ces moments. Nous te remercions, Seigneur, car non seulement tu as conclu l'alliance avec ton peuple Israël, mais tu as aussi établi une alliance éternelle avec nous en ces jours. Et tu te souviens de ton alliance, tu ne la rendras pas caduque. Non, Seigneur, ce que tu as dit une fois, tu le maintiendras. La parole promise, tu l'accomplis, ô Seigneur, et pour cela nous t'adorons et louons ton nom glorieux. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre d'être à nouveau ici ce soir pour louer ton nom glorieux. Seigneur, tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, tes jugements s'étendent sur toute la terre. Mais Seigneur, ta grâce est sur ton peuple. Nous louons ton nom glorieux, nous t'adorons, nous te rendons gloire à toi seul, car tu es notre Dieu. Oui, tu es le Dieu de ton peuple d'Israël, ô Dieu. Tu les as rappelés, Seigneur, dans leur patrie, et tu tiens tes mains sur eux, ô Seigneur, et tu seras avec eux, tu seras aussi avec nous, ô Seigneur. Nous te rendons grâce à ton nom merveilleux et glorieux. Seigneur, nous ne voulons pas nous glorifier, mais nous glorifions ta grâce et ta fidélité. Et nous te remercions du fond de notre cœur, de nos cœurs, pour tes paroles, pour ta parole et pour l'alliance que tu as conclue en nos jours avec ton peuple. Honneur, louange, gloire et adoration soient à toi. Nous te prions de bénir tous ceux qui ne peuvent pas être ici ce soir. Bénis tout ton peuple en tout lieu, partout où il peut être dispersé. Mais tu connais leur cœur, car tu es un Dieu, Seigneur, qui scrute toute terre et qui sonde tous les cœurs. Seigneur, tu connais aussi nos cœurs ce soir. Nous t'adorons et te remercions du fond de notre cœur. Alléluia. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Nous aurions pu continuer à chanter. En toute confiance, je n'ai cessé de fermer les yeux et de regarder devant moi pour voir si quelqu'un était déjà parti. Mais cela fait tellement de bien. Cela fait du bien de chanter au Seigneur. De chanter vraiment du fond du cœur. En s'imprégnant et en pensant à ce qu'il a fait par grâce pour nous tous. En vérité, Dieu a fait de grandes choses. J'ai aussi lu dans ce cantique que nous n'avons pas chanté, j'ai aussi lu, et il y est dit, « Tu triompheras victorieusement, même si la bataille est encore si ardente. Il suffit de ne pas perdre la foi et de ne pas regarder la puissance de l'ennemi. Il suffit de regarder à la croix, de fixer le regard à la croix, là où la victoire est déjà acquise. Depuis longtemps, là où les ennemis ont fui et où la puissance ténébreuse est atténuée. Je veux avancer victorieusement, même si mon cœur est blessé, même si je tombe et si je glisse, même si je souffre profondément. Pourtant, il faut toujours dire victorieux sur la voie de la victoire. Rien ne peut m'arracher à Jésus. En avant, vers le haut, vers le ciel. Les compositeurs de cantiques ont aussi pensé à quelque chose en écrivant leur cantique. Alors ne vous lassez pas dans la lutte. Il continue à lire le cantique. Je reste sur la croix avec foi. Je ne crains pas l'ombre de la mort, même si tout est perdu. Victorieux, je vois la couronne de la victoire briller là-haut, impérissable, céleste, offerte par le Fils de Dieu. C'est le but ultime de notre foi. Contempler la gloire de Dieu. Et si en plus nous portons en nous la certitude, tout en sachant en fait que nous y serons, alors nous pouvons dire avec assurance, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur? Absolument rien et personne. Car la décision de Dieu est valable pour toute l'éternité. Et celle-ci nous est tombée dessus de la manière la plus douce. Nous avons entendu une parole merveilleuse dans Ézéchiel 16. Et je continue à lire là aussi, et il est dit au verset 62. Ézéchiel 16, verset 62. Mais de mon côté, je conclurai une alliance avec toi. Et tu sauras que je suis le Seigneur. Verset 63. Afin que tu te souviennes et que tu sois honteux et que tu n'ouvres plus la bouche à cause de ton opprobre, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait. Voilà ce que dit Dieu le Seigneur. Je crois que si nous considérons ainsi tout ce que dit le Seigneur, il ne reste à aucun d'entre nous l'occasion d'en prendre plein la bouche. Mais comme il est écrit d'ailleurs, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, verset 31. Il ne nous reste à aucun d'entre nous, ni à aucun autre qui a fait l'expérience de la grâce de Dieu, qui est entré dans l'alliance avec Dieu et qui y a été inclus, rien. Il n'y a rien dont nous puissions nous glorifier, si ce n'est la grâce de notre Dieu. nous nous tenons ou avons été déshonorés par Dieu. Je dois me rappeler, comme frère Branham l'a expliqué, que Dieu a fait une alliance avec Abraham sans condition. Dieu n'a pas dit « Je fais ceci et tu fais cela » et fait aurait fait un marché avec lui. Non. Mais Dieu a pris Abraham, a fait une alliance avec lui, a donné des promesses et l'a ensuite envoyé en voyage. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse et à Israël et a conclu l'alliance, c'était toujours « tu dois et tu ne dois pas », etc. Et Dieu a fait cela pour la raison suivante, pour nous montrer l'état déchu, l'état impossible avec lequel nous ne pouvons pas tenir devant Dieu, subsister devant Dieu, nous montrer devant Dieu et ensuite nous faire grâce pour que nous puissions à nouveau entrer dans l'alliance avec Dieu qui a été donnée inconditionnellement par Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il a plu à Dieu de faire cela ainsi et nous l'avons exposé ici. Nous n'aurions jamais pu reconnaître que nous avons péché s'il n'y avait pas été écrit « Tu ne dois pas faire ceci ou cela ou ceci ». Et celui qui fait cela est coupable devant Dieu. Et c'est pourquoi les saintes Écritures disent « La connaissance du péché vient par la loi ». Romains 3, verset 20. « Si la loi n'était pas venue, nous ne saurions même pas ce qu'est le péché, mais nous ne saurions pas non plus ce qu'est le salut, ce qu'est la grâce, ce qu'est le pardon, ce que signifie toutes ces choses. » C'est pourquoi nous ne pouvons que remercier Dieu qui s'est donné tant de mal pour l'humanité et qui a suivi et suit encore aujourd'hui un chemin que nous ne pouvons comprendre et nous disons avec foi, ça c'est le chemin que Dieu suit avec nous. Ici, nous avons tous lu avec lui au verset 59, Ézéchiel 16, « Car ainsi parle Dieu le Seigneur, oui, je te traiterai comme tu l'as fait. Tu as violé le serment en rompant l'alliance. » Verset 60, « Mais je me souviendrai de mon alliance que j'ai faite avec toi au jour de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une alliance éternelle. » Il y a ici deux choses. D'une part, l'alliance du passé à ce moment-là se réfère à Israël. Ensuite, j'établirai avec toi une alliance éternelle. Ce que Dieu a fait en Christ à Golgotha n'est pas temporel, mais éternel. Et nous sommes entrés dans cette alliance éternelle avec Dieu. Au verset 61, il est dit ensuite, Ézéchiel 16, « Alors tu te souviendras de toutes tes actions et tu en auras honte. Quand je prendrai tes sœurs les plus grandes comme les plus petites et que je te les donnerai pour filles, non pas toutefois en vertu de l'alliance conclue avec toi. » Verset 62, « Mais de mon côté, je conclurai une alliance avec toi et tu sauras que je suis le Seigneur. » Nous pourrions nous plonger dans ce passage de l'Écriture. Pour ma part, vous pouvez me croire, j'ai toujours envie de me souvenir qu'il m'a été dit, rassemble-moi mon peuple avec lequel j'ai conclu l'alliance du sacrifice. Psaume 50, verset 5. Il s'agit vraiment aujourd'hui du peuple de Dieu qui se rassemble en présence du Seigneur, qui est prêt à recevoir sa parole, les paroles de l'Alliance, et à croire Dieu de tout son cœur. Pas seulement des choses doctrinales, c'est bien, c'est une colonne vertébrale, mais on n'est pas fait que de colonne vertébrale. Il faut qu'il y ait beaucoup de membres pour former un corps. Et c'est pourquoi il est nécessaire que nous nous réunissions devant la face de Dieu et que nous nous représentions toujours à nouveau ce que Dieu a fait dans l'alliance qu'il a conclue de lui-même avec nous, sans nous demander ni à toi ni à moi, sans que nous y soyons présents sur terre. Mais du point de vue de Dieu, nous avons déjà été en Christ, car c'est ce qui est écrit. Et c'est ce que frère Branham a toujours souligné. Nous étions en lui lorsqu'il luttait à Gethsémani. Nous étions en lui lorsqu'il est mort à Golgotha. Nous avons été enterrés avec lui, ensevelis. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons été transportés au ciel avec lui. Si nous y sommes un jour, nous y avons déjà été. Parce que la vie de Dieu n'a jamais commencé, mais a toujours été. Et dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, nous avons déjà été là où il veut que nous soyons. Nous ne pouvons peut-être pas le comprendre entièrement, mais c'est ainsi. Et parce que Dieu a conclu une alliance unilatérale, mais s'il le fait, c'est aussi juste. Nous n'avons pas été consultés, et pourtant, nous avons reconnu que cette alliance nous incluait aussi et que nous appartenions désormais au Seigneur pour toujours et éternellement. J'ai lu dans l'Ecclésiaste, au chapitre 6, juste avant, deux ou trois versets, du verset 10, donc au chapitre 6, du verset 10. Tout ce qui arrive est décidé d'avance, et le sort de l'homme est fixé d'avance, et personne ne peut demander compte à celui qui est plus fort que lui. Verset 11, certes, il y a beaucoup de bavardage, mais cela ne fait qu'ajouter à la vanité. Quel profit l'homme en retire-t-il? Verset 12, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant les quelques jours de sa vie futile qu'il passe à l'ombre, qui passe comparable à l'ombre, car qui fait connaître à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Vous savez que cet homme était doté d'une sagesse sans pareille, et il est dit ici, au verset 10, tout ce qui arrive est déterminé longtemps à l'avance. Cela aussi a été souligné, et nous croyons à la prédestination divine dans notre vie. Verset 10, et dès le départ, on sait ce qu'il adviendra d'un homme. Pouvons-nous tous croire cela? Dans ce cas, je me demande pourquoi est-ce que je devrais poser des questions à Dieu? Quel sens et quel but l'histoire doit-elle encore avoir? Si tout est effectivement fixé par Dieu, si c'est fixé, je ne peux pas changer les choses. Les choses de Dieu ne sont pas détachées, elles sont fixes. Et c'est bien ainsi. Si nous pouvions les secouer, les faire bouger, que resterait-il? Rien du tout. Tout s'écroulerait. Nous redressons sur de telles paroles et remercions le Seigneur de ce qu'elles ont été écrites pour nous instruire, nous consoler et nous avertir afin que nous soyons fortifiés et que nous puissions aller de l'avant dans le Seigneur. Romains 15, 4, au verset 10, maintenant 2. L'Ecclésiaste 6. Tout ce qui arrive est déterminé longtemps à l'avance et dès le départ, on sait ce qu'il adviendra d'un homme. Cela est certain. Il est certain, c'est déjà fixé que nous serions ici aujourd'hui, que vous seriez passés dans ce pays, que notre frère serait venu, que nous serions tous sauvés, que notre vie aurait un contenu divin. Tout était fixé. Oui, qui veut alors secouer et changer les choses? Qui veut alors relâcher les choses, détacher les choses, si Dieu l'a fixé ainsi? Remercions Dieu de l'avoir fait ainsi, car c'est là que notre foi est ancrée. Si chacun pouvait encore secouer et ébranler tout ce que Dieu fait et peut-être le défaire, que ne se passerait-il pas alors? Non, les choses que Dieu a faites sont solides pour toujours et à jamais, éternellement, car il en a décidé ainsi. Et c'est en cela, je le répète, que notre foi repose et que l'incrédulité nous quitte. Au moment où la foi nous saisit, l'incrédulité doit alors nous quitter. Mais certainement, car la foi et l'incrédulité ne peuvent tout à coup pas former un couple quelque part avec nous, car elles ne vont certainement pas ensemble. Il est encore dit ici au verset 10, et personne ne peut demander des comptes à celui qui est plus fort que lui. Et c'est Dieu. Dieu qui a déterminé toutes choses à l'avance, et cela pour ta vie et la mienne, qui peut lui demander des comptes? Parfois, nous avons tendance à nous fâcher avec lui, pas dans le mal. Je n'ai qu'une chose avec le Seigneur qui m'émeut, pas la prédication, pas l'enseignement, mais que nous puissions quand même sentir sa présence d'une certaine manière. J'aurais presque voulu dire sa présence d'une manière visible, comme c'était dans l'Ancien Testament. La nuée de la gloire de Dieu est venue et s'est penchée sur la tente de la révélation. À chacun et chacun l'a su. C'était visible. Chacun savait que maintenant le Seigneur parle à Moïse. Tout le monde le savait. Ce n'était pas une devinette, mais lorsque cette nuée de gloire prenait place au-dessus de l'entrée de la tente de rendez-vous, de la tente de rencontre, de révélation. Tout le monde savait. Moïse, elle est là-bas, en présence de Dieu le Seigneur, et le Seigneur lui parle. Lorsqu'il en sortira, il aura une parole de Dieu à nous apporter. Parfois, je me dis que ce serait bien si Dieu le Seigneur pouvait nous offrir une telle présence visible de lui. Avec Dieu, tout cela est possible. Je crois que ce soir encore, j'ai entendu quelque chose sur une cassette et frère Branham dit la chose bien connue du plastron et il dit, Dieu a toujours eu une possibilité ou même deux ou trois possibilités de répondre et de rencontrer les hommes. Et il dit, l'une était avec le pectoral, c'est-à-dire que si quelqu'un venait et apportait un rêve ou une révélation ou quelque chose, alors il devait se tenir devant le souverain sacrificateur et disait ce qu'il avait à dire. Et si aucune lumière surnaturelle ne sortait du pectoral, la personne pouvait s'en aller honteuse. C'était alors lui qui parlait et non Dieu. L'homme ou la personne elle-même savait par une réponse, savait par une réponse de Dieu ou par le silence de Dieu ce qu'il en était. Si Dieu se taisait, la personne pouvait s'en aller. Tout restait comme avant et l'obscurité persistait. Il n'y avait pas de réponse de Dieu. Et pourtant, la personne concernée et les hommes aussi avaient une réponse. Car chez Dieu, il y a aussi une réponse lorsqu'il se tait. Dans ce cas, ça veut dire qu'il n'a pas parlé. Et cela nous fait réfléchir et nous frappons la poitrine en disant, Seigneur, Nous avons présenté quelque chose qui nous est propre. Ce que nous devrions avoir sur le cœur, si ce n'est pas déjà le cas, c'est ce désir-là, réel de la présence directe de Dieu, d'une confirmation infaillible de sa parole par sa présence. Et là aussi, je répète ce que frère Branham a dit, afin que personne ne pense que je le donne ici de mon propre chef. Mais il prie aussi ainsi, de tout son cœur et dit, Seigneur, permets-moi ce soir de montrer à chaque pécheur le chemin du salut, à chaque sanctifié, de devenir ce que tu veux qu'il soit, et présente ainsi ses requêtes au Seigneur avec le désir le plus profond que le service divin qu'il va commencer. D'ailleurs, c'était l'un de ceux auxquels j'ai assisté à l'époque, et que le service divin est quelque chose à offrir, à donner, à dire à chacun, à apporter quoi que ce soit à chacun qui est présent. Et au fond, nous avons tous le même désir. Nous ne nous réunissons pas uniquement pour chanter quelques cantiques. Ils font peut-être partie de l'ensemble, peu importe. Mais cela ne peut pas rester le sens de notre présence ensemble. De notre présence ensemble à long terme, non. Une sainte insatisfaction doit s'emparer de nous jusqu'à ce qu'une satisfaction donnée par Dieu s'installe, dans la mesure où nous pouvons dire avec un cœur sincère que Dieu était présent et qu'il a fait ceci et cela. Nous avons parfois parlé de cela aussi. Où est-ce que le Seigneur a-t-il tenu, ne serait-ce qu'une réunion, sans que rien ne se soit passé? Où? Partout. Où il est entré dans une maison, le salut est arrivé à la maison, qu'il ait rencontré un homme, n'importe où et n'importe quoi. Il n'y a pas eu un jour, une réunion, un service divin, sans que Dieu ne serve les hommes et ne les rencontre. C'est ce que nous désirons. Et nous aspirons à ce que le Seigneur vienne à notre rencontre aujourd'hui aussi. Quel est le chemin pour y parvenir? Ce doit être la foi. Nous attendons que toutes les promesses s'accomplissent et c'est ce que nous voyons. Mais si nous voulons être tout à fait réels, abstraction faite de toutes les choses merveilleuses que Dieu a faites et pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Il ne faut en aucun cas qu'il y ait ici de l'ingratitude. Mais nous aimerions que le Seigneur fasse encore une fois ce qu'il a promis dans l'Église. Que cela se fasse pour Israël, que cela se fasse parmi les peuples, que l'humanité soit en état, comme le Seigneur l'a dit, au jour où le Fils de l'homme se manifestera, ce sera comme c'était du temps de Sodome et Gomorrhe et comme au jour de Noé. Tout cela est là, mais ce n'est pas tout. Cela s'accomplit sans que nous ayons à faire d'efforts pour y croire. Toutes les choses qui ne sont pas en rapport avec l'Église du Dieu vivant s'accomplissent sans que nous ayons à y contribuer. Mais c'est là que nous arrivons au point important. Les choses que Dieu a promises à l'Église ne s'accomplissent absolument pas sans nous. Et c'est là la différence entre toutes les promesses générales dans tous les domaines. Elles s'accomplissent toutes sans notre intervention, sans que nous ayons besoin d'une foi puissante. Mais dans l'Église, rien de tout ce que Dieu a promis ne se produit à moins que nous, afin que nous agissions conformément à sa parole par la foi en prenant Dieu par sa parole et en le remerciant de l'avoir déjà fait, afin qu'il puisse l'accomplir. Avons-nous compris cela? Tout le reste s'accomplit sans nous. Passe à droite et à gauche, ou bien à droite, à notre droite et à notre gauche, ou bien nous en prenons connaissance de manière marginale et c'est déjà fait. Mais ce qui doit se passer avec l'Église dépend de nous qui faisons partie de l'Église. Dieu ne pourra être efficace dans l'Église qu'à travers l'Église elle-même. Et cela signifie que tous les membres individuels doivent se mettre à la disposition du Seigneur. Qui d'entre vous a déjà réfléchi à la manière dont nous devons nous mettre à la disposition du Seigneur? Non pas que nous fassions des projets, ce ne serait pas correct, mais que nous cherchions et trouvions intérieurement la communion personnelle avec Dieu, de sorte qu'à partir de ce lien personnel réel avec Dieu, il puisse y avoir une direction, une conduite directe du Saint-Esprit au milieu de nous, afin que le Seigneur puisse se glorifier et confirmer sa parole. Combien d'entre nous veulent repasser cela dans leur cœur, méditer là-dessus. Il ne suffit pas qu'un ou deux seulement s'en occupent, mais que nous disions simplement tous au Seigneur dans la prière, Dieu fidèle. Nous voulons que chaque promesse que tu as faite à l'Église s'accomplisse aussi par elle et en elle. Nous sommes ici à ta disposition. Apprends-nous à prier, apprends-nous à croire et à recevoir comme tu l'attends de nous. Je pense que Dieu ne nous devra alors pas la réponse, mais qu'il répondra parce qu'il a en effet donné les promesses sans condition et qu'il les a simplement liées à la foi, non pas à des circonstances, mais à la foi. Si les promesses de Dieu dépendaient des circonstances, personne ne les aurait vécues. Et tout le monde aurait regardé les circonstances. Non, elles sont détachées de tout. Mais nous aussi, je pense, je me le dis aussi personnellement, nous devons nous détacher des circonstances qui nous lient avec l'aide de Dieu. Et comme nous l'avons entendu ce week-end, être des liés du Seigneur, des prisonniers du Seigneur, mais des libérés de Dieu et ensuite des prisonniers de lui afin que le Seigneur puisse faire exécuter sa volonté par nous conformément à sa parole. C'est sans doute pour cela qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 et verset 21. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen par nous. À la gloire de Dieu, il ne peut pas nous exclure comme parce qu'il nous a inclus. Nous en faisons tout simplement partie. Nous avons besoin de Dieu et il a besoin de nous. Prenons donc cette parole à cœur. Remercions-le de ce que tout se passe comme il l'a prévu depuis longtemps. Et d'emblée, c'est ainsi que nous lisons dans Ézéchiel, dans Ecclésiaste 6, verset 10, c'est ainsi que nous lisons, le sort de l'homme est fixé et nul ne peut demander compte à celui qui est plus fort que lui. Ecclésiaste 6, verset 10. Je connais un homme qui a lutté avec Dieu et il est écrit de lui qu'il est resté vainqueur. C'était Jacob. Il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange, avec le Seigneur, et il est resté vainqueur. Genèse 32, 28. Dieu a fait tout cela et l'a conduit à cause de son ami Abraham. Et il a accordé des bénédictions à tous ceux qui ont marché sur les traces de la foi d'Abraham et qui ont cherché leur aide auprès de Dieu, leur secours, qui ont trouvé leur refuge auprès de lui et qui ont ensuite été bénis par lui. Puisse le Seigneur nous bénir de telle sorte qu'un jour on puisse encore dire « Ce sont les bénis du Seigneur. » Que sa présence puisse tout de même se manifester encore une fois, pas seulement en parole ou en prière ou en cantique, mais réellement de manière si sensible, si puissante que nous-mêmes et d'autres en ferions encore l'expérience et d'autres le verraient. Si nous le désirons sincèrement et le portons dans notre cœur, Dieu est plus que capable de nous le donner et de nous l'offrir par grâce. Loué soit son saint nom. Amen. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Tu nous as placés dans les derniers jours à la fin du dernier âge de l'Église pour entendre maintenant le dernier message par le dernier messager, pour recevoir le dernier discours de Dieu et pour participer à la dernière action de Dieu. Dieu Tout-Puissant, en ce qui concerne ton plan, il est devant nous comme le dessin d'un architecte. Mais maintenant, Seigneur, viens prendre toi-même tous les outils, tous les artisans, et donne-nous tous ensemble la compréhension et la vue d'ensemble de ton plan et de ton projet en ces jours. Accorde-nous la grâce de ne pas penser que tout doit être fait par un seul homme. Non, un seul Dieu plutôt. Tout doit être fait par un seul Dieu qui agit à travers nous tous et confirme sa parole. Seigneur, je te remercie pour tout l'enseignement, pour toute introduction profonde dans ta parole et dans ta volonté. Seigneur, qu'une pleine restauration se manifeste au milieu de nous et même dans toute ton Église comme confirmation que tu es véritable et que ta parole est et que ta parole s'est accomplie. Seigneur bien-aimé, nous croyons de tout notre cœur que tu le feras et que ce faisant, tu ne passeras pas sans t'arrêter, mais que le peuple de l'Alliance, de ton Alliance, sera rassemblé devant ta face. Non seulement nous avons entendu, mais nous verrons aussi que Dieu est vivant et qu'il confirme sa parole. Seigneur, nous te prions maintenant pour notre frère qui retourne en Pologne et pour notre chère sœur qui revient aussi avec, qui retourne aussi avec son fils. Seigneur, nous te prions de les bénir et d'être avec eux. Seigneur, va devant eux, place-les là pour être une bénédiction et fais en sorte qu'ils puissent eux aussi témoigner, même si c'est dans la faiblesse, car tu es assez fort pour agir par de faibles instruments. Seigneur, nous te remercions pour tous les frères et pour toutes les sœurs de l'Est et de l'Ouest, du Sud et du Nord. Seigneur, toi qui nous as donné le privilège d'entendre, de croire et de recevoir toutes les paroles de l'Alliance, accorde-nous la grâce, ouvre nos yeux de la foi pour que nous puissions contempler ta gloire et voir la confirmation, car c'est toi qui la donneras. Nous en sommes convaincus. Ce qui n'arrivera ni à Israël, ni au monde entier, arrivera à ton épouse. Seigneur, fidèle, époux de notre âme, nous te remercions. Prends-nous avec toi. Fais de nous des prisonniers de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mets ta volonté dans nos cœurs et ajoute-y ta puissance afin qu'elle puisse être exécutée pour l'honneur et la gloire de ton nom et pour ta satisfaction. Seigneur, nous sommes ici. Arrache-nous aux circonstances et lie-nous à toi. Que nous soyons sous un seul joug avec toi, ô Seigneur. Nous te remercions pour cela. Nous pouvons déjà y croire. Alléluia. Et nous te glorifions et nous te louons. Satan est le grand trompeur et le grand menteur. Toi, ô Dieu, tu es véritable. Nous t'en remercions. Tu es fidèle à ta parole et tu l'accomplis. Seigneur, aide-nous tous et nous serons aidés. et bénis-nous, et nous serons bénis. Adoration à ton nom. Amen.